Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Marc Gledel. Il est responsable départemental des Jeunes Républicains d'Ille-et-Vilaine. Et il a pris le train pour être avec nous ce matin en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors nous allons parler, ça ne vous aura pas échappé, de politique et particulièrement, est-ce qu'on peut parler de chaos politique, de ce qui se passe aujourd'hui en France ?
Je pense qu'on n'en est pas loin en tout cas. Je pense qu'on a une situation qui est extrêmement instable et qui n'est pas très désagréable, je pense, pour les Français.
Alors, les Français s'interrogent, c'est un cas assez unique, un Premier ministre qui a à peine été là un mois, qui n'a pas trouvé de solution pour avoir un gouvernement stable, qui a présenté sa démission, comme ça au petit matin, il y a deux jours presque maintenant, Premier ministre qui est rappelé par le Président de la République pour essayer de trouver finalement un compromis. Est-ce qu'il ne fallait pas le trouver avant le compromis ?
Je pense que si, mais je pense que j'ai beaucoup de mal à croire qu'en deux jours, il va réussir à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire en 26 jours. Surtout qu'il ne partait pas d'une base vide. Il y avait quand même deux précédents gouvernements qui avaient tenu l'un 3 mois, l'autre presque 8 mois, enfin un peu plus. Mais donc il y avait déjà une base et je ne sais pas réellement ce qu'il a tenté de faire, mais il a produit quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas tenu plus d'une journée, plus de 14 heures même. Donc c'est un terrible échec et c'est un échec pour tout le monde.
Alors, terrible échec, échec aussi pour Emmanuel Macron qui n'arrive pas finalement à apporter une stabilité au pays. Et là, aujourd'hui, les spéculations vont bon train. Alors d'abord, quelle sera l'issue des négociations entamées par Sébastien Lecornu, donc ministre, Premier ministre démissionnaire. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on aille vers une dissolution ou vers la nomination d'un gouvernement technique avec Sébastien Lecornu de retour, bien qu'il s'en défende comme Premier ministre, ou la nomination d'un ministre de gauche. On a entendu là aussi ces dernières heures beaucoup de propositions. Olivier Faure a dit qu'il était prêt à assurer justement à être à la tête du gouvernement. Voilà, est-ce que vous, dans toutes ces propositions, il y a quelque chose qui vous interpelle ?
Bah, d'abord, oui, c'est un terrible échec pour Emmanuel Macron aussi. Mais c'est un échec qu'il a cherché. C'est une situation dans laquelle il s'est mis tout seul. Donc c'est aussi à lui de s'en sortir. Et il enchaîne des nominations qui n'ont pas de sens. D'abord, au moment où on cherchait une rupture, il nomme François Bayrou, qui est son plus fidèle acolyte depuis toujours. Et ensuite, au moment où les Français lui font comprendre une nouvelle fois qu'ils ne veulent plus du macronisme, il nomme Sébastien Lecornu, qui a été parmi les premiers traîtres à le rejoindre. Donc il y a une réalité, c'est qu'il n'apprend pas et il finit toujours par être surpris que ça ne fonctionne pas. Mais il le cherche et parmi les solutions, je ne sais pas laquelle sera le meilleur. Et enfin, je pense que le choix revient qu'à une seule personne, donc ça ne sert à rien de tout lui faire des conseils qui, je pense, n'écoute pas. Mais une dissolution, je ne pense pas que ça soit une solution. En soi, ça apportera plus d'instabilité. On a vu ce qu'elle a donné, la dissolution. Je ne suis pas sûr qu'un an plus tard, les choses aient beaucoup changé, ou en tout cas suffisamment changé, pour qu'on puisse avoir une majorité. Un Premier ministre de gauche, je pense qu'il tiendra plus de 14 heures, parce que ce Premier ministre n'aura pas le courage de démissionner tout seul, et il ira jusqu'à la censure, qui interviendra dans la semaine qui suit. C'est sûr, parce que même au sein de la gauche, on parlait d'Olivier Faure, il fait pas l'unanimité. Mmh. Même au sein de la gauche, la France insoumise, je pense, n'hésitera pas à le censurer si besoin. Donc, je suis pas sûr que s'il fasse l'unanimité, même pas au sein de ce qui est censé être sa couleur politique, je suis pas sûr qu'il fasse l'unanimité auprès des Français. Et les Français sont majoritairement à droite, on l'a vu, donc je ne suis pas sûr que Olivier Faure soit une issue très stable.
On peut imaginer aussi Jordan Bardella, par exemple, à l'Élysée. On a vu que lui aussi a dit qu'il se tenait prêt si on l'appelait pour la fonction de Premier ministre.
Oui, bah, il se tient prêt. Mais il se tient prêt à quoi ? On ne sait pas trop. C'était celui qui disait qu'il gouvernerait que s'il avait une majorité absolue, parce que en réalité, il n'a pas le courage d'aller réellement à Matignon, et il savait qu'il n'aurait pas la majorité absolue aux présidentielles. Et il a surtout, je pense, pas l'envie, peut-être même les capacités, d'être capable de gouverner et surtout de chercher une majorité et de chercher le consensus. Il n'en a pas envie, il veut appliquer son programme. Donc je pense que jusqu'en 2027 ou jusqu'au moment où ils auront une majorité absolue, ils ne feront rien, comme ils n'ont rien fait depuis...
On l'a vu aussi, on l'a entendu en tout cas ces dernières heures, Marc Leydel, beaucoup de voix qui, plutôt du côté de l'extrême droite, plaident pour une union des droites, on l'a entendu, vraiment du Rassemblement National jusqu'à Reconquête. Il y a eu des appels du pied pour que la droite républicaine, les républicains en un mot, puissent arriver dans une forme de grande coalition de droite. Est-ce que c'est quelque chose là aussi qui est plausible, qui est inimaginable, où il y a encore des lignes rouges?
L'union des droites avec qui? Enfin, est-ce qu'on considère le Rassemblement National de droite quand même Marine Le Pen refuse de le dire? Est-ce qu'on considère que s'abstenir plutôt que voter contre la taxe Zuckman, c'est quelque chose de droite? Je suis pas sûr. Quand on refuse de voter les 15 heures de travail contre le RSA, je pense pas qu'on soit de droite. Je pense plutôt qu'on prône l'assistanat et qu'on se rapproche du socialisme. Mais c'est le choix que fait Marine Le Pen, qu'elle n'appelle pas à une union de la droite quand elle-même ne se trouve pas dans cette droite. Puis après, l'UDR prône l'union des droites, mais... Je vois pas à quel moment ils se sont unis avec la droite. Même, on va prendre un exemple très local, à Rennes, il y a l'union des droites qui se fait avec Thomas Rousseau. Il la rejoint, enfin depuis 2023, il mène une union des droites, l'UDR a refusé de la rejoindre. Donc, quand un parti qui s'appelle Union des droites refuse de rejoindre l'union, je suis pas sûr qu'après il puisse appeler à grand chose.
Alors, on va en parler des municipales tout à l'heure, parce que là aussi, il y a des enjeux régionaux, locaux. Mais d'un point de vue national, est-ce que le compromis, finalement, est quasi impossible? Et est-ce que... Alors, on, là encore, hein, on parle de dissolution, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi que Emmanuel Macron jette l'éponge? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plausible?
Moi, je pense qu'on peut arriver à un compromis. Déjà, si chacun accepte qu'il a perdu, je pense que personne n'a gagné, la gauche n'est pas capable de gouverner. Le centre, on l'a montré, c'est catastrophique. Du côté de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça ne va pas fonctionner non plus. Personne n'a de majorité, personne n'a de quoi gouverner. Donc je pense que c'est à chacun aussi de ravaler sa fierté, d'être capable de discuter et d'échanger. Mais personne, aujourd'hui, n'a le courage de le faire. Donc la dissolution, je ne suis pas sûr que ça soit une solution. La démission du président de la République, je ne sais pas ce qu'elle apporterait. Je pense que la démission ne serait pas une réussite. Je pense que déjà la dissolution n'en serait pas une. Donc déjà c'est apporter de la stabilité. On parlait d'un gouvernement technique. C'est une possibilité qui est belle sur le papier. Après avec qui dedans? Qui serait censuré, qui ne le serait pas. Donc le gouvernement technique serait justement très technique à faire. Et je pense pas qu'il aurait beaucoup de clés pour agir. Après la démission, j'y crois pas parce qu'il est très attaché au pouvoir. Parce que je suis assez attaché aux institutions, je suis pas sûr que des appels à la démission à tout va soient une solution.
Yael Braun-Pivet, qui était la présidente de l'Assemblée nationale, qui était l'invitée de nos confrères d'RTL il y a quelques minutes, a parlé un petit peu de son entretien avec le président de la République, qui lui ne semble pas prêt pour une dissolution, il l'a rappelé a priori lors de cet entretien. Donc on s'achemine peut-être vers un nouveau Premier ministre. Nouveau Premier ministre, ça veut dire peut-être, on l'évoquait tout à l'heure, un ministre de gauche. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, la droite censurerait immédiatement?
Immédiatement, non. On va au moins attendre de voir ce qu'il propose et aussi de voir s'il y a une possibilité d'aller vers quelque chose, ce qui n'était pas le cas vers les précédents gouvernements, où on n'allait pas souvent vers quelque chose de très intéressant. Maintenant, oui, il y aurait une censure, je pense, qui arriverait très rapidement, parce que, on ne partage rien avec la gauche, surtout pas avec la gauche actuelle, où le socialisme n'existe plus, se dissout jour après jour avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, je suis pas sûr qu'on se retrouve dans cette gauche-là. Maintenant, je suis assez surpris. Ils n'ont pas parlé de dissolution. De quoi ont-ils parlé? Ils se rencontrent souvent. J'ai l'impression souvent pour rien dire. Donc c'est dommage. Surtout dans la situation qui est assez pressante.
Alors on a vu aussi Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a été reçu par le président de la République. Lui, il n'a pas fait de commentaire sur ce qui s'était dit lors de cet entretien. On peut imaginer aussi que le président de la République appelle une personnalité de la droite. Allez, pourquoi pas Gérard Larcher, justement.
Je ne sais pas si Gérard Larcher en a l'envie. Je suis pas sûr. Je pense que... Il faut être très solide, non pas que Gérard Larcher ne le soit pas, mais et un peu fou aussi, je pense, pour accepter le poste de Premier ministre en ce moment. Maintenant, si la droite le prend, je pense que ça sera tout à son honneur d'essayer de relever le pays, mais ça ne va pas être simple, surtout que personne n'y met du sien.
Alors, pour revenir sur l'idée d'un Premier ministre de gauche, ou en tout cas d'un gouvernement qui pencherait plutôt à gauche, on a vu aussi les concessions d'Elisabeth Borne chez nos confrères du Parisien, qui s'est dite prête à revenir sur la réforme des retraites. Moi, j'allais presque dire tout ça pour ça.
Oui, j'allais dire qu'elle frôlait le ridicule, mais je pense qu'on est en plein dedans. Enfin, elle s'est battue pour mener une réforme. Ça a causé sa chute, cette réforme. Et aujourd'hui, elle nous propose de la retirer, alors qu'elle était la première, avec Olivier Dussopt, à dire que c'était la réforme qui allait tout changer, qui était nécessaire pour la survie des retraites. Et aujourd'hui, cette réforme, elle est tellement nécessaire que sur un coup de tête, on peut s'en séparer. Donc je pense que soit elle a menti, ce qui ne nous étonnerait pas d'elle, soit... cette réforme est mauvaise, ce qui ne nous étonnerait pas d'elle non plus.
Donc là aussi, alors il y a un satisfecit de plusieurs organisations syndicales. On pense à la CFDT qui dit clairement que voilà, Elisabeth Borne a perdu la bataille des retraites. À droite, comment ça s'est perçu justement cette reculade, hein, je ne sais pas si on peut dire comme ça.
Je pense que c'est ridicule de s'être autant battu pour une réforme qui devait être autant nécessaire pour aujourd'hui dire cette réforme est tellement nécessaire qu'on l'abandonne. Qu'il y ait des choses à retravailler sur cette réforme, oui, beaucoup de choses même, mais je suis pas sûr que revenir sur cette réforme soit vraiment une solution, et en tout cas c'est pas celle qu'on pourrait proposer. Donc je pense que cette réforme, laissons-la comme elle est, elle est passée. Maintenant, essayons d'avancer sur autre chose. Et je pense que les Français, aujourd'hui, ils ont d'autres priorités que la réforme des retraites à l'heure actuelle.
On sent un vent de panique quand même au niveau de pouvoir, au niveau, là aussi, de la présidence de la République. C'est un petit peu sauf qui peut, hein, si on regarde un petit peu entre les lignes.
C'est sauf qui peut, c'est ridicule. Et puis c'est surtout, je ne sais pas trop vers quoi on va tendre, mais je pense que ça sera une solution qui sera vraiment très, très provisoire jusqu'en 2027. Il ne va pas falloir que le temps soit trop long.
Voilà, il ne faut pas que le temps soit trop long. Pour les Français aussi, hein, vous évoquiez les Français qui ont d'autres attentes, d'autres inquiétudes, qui voudraient aussi pouvoir voir des réformes appliquées. On le voit aussi, c'est le pouvoir d'achat, c'est les difficultés à joindre les deux bouts, comme l'on dit, avec un budget très contraint. Là aussi, ça nous amène au budget qui risque d'avoir un impact sur la vie de tous les jours, sur la vie quotidienne des Français. On a jusqu'au 31 décembre pour avoir un budget pour la France. J'allais là aussi dire que, étant donné la situation, c'est un petit peu mal engagé.
C'est très mal engagé, oui. Surtout que personne n'arrive à se mettre
d'accord.
Vous
dites que c'est très mal engagé.
Déjà, rien que pour composer un gouvernement, pour essayer de se mettre d'accord sur des prénoms, on a du mal, donc je pense que je vois pas comment on va se mettre d'accord sur un budget, surtout qu'on le sait bien, historiquement, on ne vote pas le budget de l'opposition, donc je vois pas qui va voter ce budget, je vois mal Marine Le Pen, Jordan Bardella dire on va voter le budget, je vois mal la gauche le faire, parce que, quoi qu'il arrive, c'est que si les Républicains entrent au gouvernement, la condition elle a pas changé, c'est pas de hausse d'impôts et une baisse de l'État, une baisse de dépenses de l'État, donc visiblement... Je crois que pas grand monde ont l'air d'être d'accord. Marine Le Pen veut augmenter les impôts. C'est encore son penchant socialiste qui a parlé. Emmanuel Macron, il veut sûrement faire quelque chose. On ne sait pas quoi. Lui-même non plus, je pense. Mais on verra où ça amène. Mais ce budget sera, je pense, très compliqué. Il coûtera sûrement la fin d'un Premier ministre. Comme l'année dernière.
J'allais dire une fois encore.
Oui, une fois encore. Je pense que... je ne sais même pas comment il sera adopté. Sébastien Lecornu disait 149-3.
Sa
promesse est honorée au bout de 14 heures.
On peut imaginer par ordonnance une adoption du budget par ordonnance.
Oui, mais je pense que, encore une fois, c'est à l'Assemblée nationale de voter un budget. Et le faire par ordonnance, je pense qu'il y a une légitimité qu'on perd. Et enfin, un budget, il se vote, il se décide, on le débat. Donc j'aimerais que ça ait lieu, mais je ne suis pas très très optimiste.
Alors, les Français, on le disait, ne sont pas optimistes non plus. Décidément, nos auditeurs vont se demander si ce matin, on fait un catalogue un petit peu de ce qui ne va pas. Ce qui va encore, c'est les collectivités. Et encore, à grand-peine, les collectivités territoriales, les collectivités locales. On va parler des municipales qui pourraient éventuellement... Là encore, on a entendu une petite musique ces dernières heures qui tente à dire que les municipales pourraient être ajournées, en tout cas repoussées, s'il y avait une autre échéance. On peut imaginer des législatives anticipées. Là aussi, on a vu que les états-majors des partis politiques, et c'est le cas à droite, se préparent pour ces municipales. Il y a des enjeux aujourd'hui pour la droite. C'est de conserver des villes, c'est de conserver des territoires.
Oui, alors déjà, bon, est-ce que les municipales seraient décalées ? Je pense qu'il ne le faut pas. Enfin, déjà en 2020, ça avait été décalé. Enfin, faut garder une forme de stabilité. Les dates ont été annoncées il y a peu. Je pense que déjà les changer, ça serait une mauvaise chose. Donc justement, en faisant en sorte que si Emmanuel Macron décide une dissolution, qu'il la fasse tout de suite et qu'il ne fasse pas attendre trop longtemps pour que, in fine, ça décale les municipales. Ensuite, il y a des enjeux. Il y a des enjeux déjà de conserver cet ancrage local que la droite a, que les républicains ont depuis longtemps. Il y a cet ancrage local et puis il y a souvent rural et dans des villes qui sont souvent périphériques. On perd beaucoup de métropoles. On a perdu beaucoup de grandes villes. Ce sera aussi le grand enjeu de 2026, c'est récupérer des grandes villes à Paris, Nantes, Rennes évidemment. Et tant d'autres villes, Lyon, on a accepté, parce qu'on considère qu'il ne faut pas laisser la ville aux écologistes, on a accepté que notre candidat, les Républicains, se range derrière Jean-Michel Aulas, qui faisait l'union avec les centristes pour avoir plus de chances de gagner.
Là aussi, plutôt une union au centre qu'une union vers la droite, un petit peu comme... on pourrait imaginer la droite, le RN en l'occurrence, l'extrême droite. Là, il n'y aura pas d'union possible.
Le Rassemblement National a un gros problème avec les discussions. C'est-à-dire que c'est soit on s'allie avec eux, on prend leur logo, leur programme, et on va derrière eux, soit on ne s'allie pas. Bah nous, on ne va pas s'allier si on n'a pas le droit de mettre notre logo et si on n'a pas le droit de discuter le programme.
Alors le programme précisément, vous parliez de Rennes tout à l'heure, c'est un grand enjeu pour la droite, Rennes ancrée à gauche depuis de nombreuses années, le bilan de Nathalie Appéré, on le voit pointer du doigt assez régulièrement par le candidat de la droite, en tout cas Thomas Rousseau qui laboure le terrain. Est-ce que Rennes est prenable pour la droite ?
Je pense qu'il y a une vraie volonté de changement parmi beaucoup de Rennais. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas. Il y a des divisions, comme partout à Rennes. Donc, il y a des divisions, on le voit à gauche, puisque la France Insoumise ne soutient pas Nathalie Appéré. On verra ce que feront les écologistes. C'est eux qui feront la bascule, comme chaque élection. Mais, d'un côté, même du centre jusqu'à la droite, jusqu'au Rassemblement National... Tout le monde est... Enfin, on a Thomas Rousseau qui s'est lancé en 2023, qui a été le premier à annoncer un rassemblement. Et voilà, ensuite, il y a eu Charles Compagnon et Carole Gandon qui ont annoncé qu'ils allaient aussi faire un rassemblement. Mais ils veulent se rassembler, mais pas avec la première personne qui a décidé de faire un rassemblement. Donc, ils veulent faire un rassemblement contre un rassemblement. C'est une certaine idée du rassemblement, justement. On attendra de voir ce qui se passe aussi de côté du Rassemblement National et autres. Mais Je suis toujours optimiste parce que souvent localement on discute plus facilement qu'à l'échelle nationale, mais il va falloir. Enfin, il y a une nécessité, c'est que le rassemblement ça soit le plus large possible pour gagner, parce que sinon on part sur un combat qui est perdu d'avance. Rennes c'est à gauche depuis 77, donc je pense que il faut aussi comprendre que ça ne va pas changer du jour au lendemain.
Voilà, il y aura de toute façon nécessité de se rassembler pour pouvoir changer le cours politique.
Oui, il y a nécessité de se rassembler, quoi qu'il arrive, et d'être capable chacun de faire des concessions, parce que sinon on ne va pas y arriver.
Alors, les enjeux, ils sont nombreux aujourd'hui pour la droite. Alors ici, en Bretagne, les enjeux économiques, évidemment, les enjeux de territoire, les enjeux ruraux, les enjeux de l'agriculture, et puis de la sécurité aussi, on en parle beaucoup aujourd'hui.
Oui, les enjeux sont très nombreux. La filière agricole, elle est malmenée depuis très longtemps. on a eu de la chance d'avoir une ministre LR pour l'agriculture, et ça c'était une très bonne chose, une ministre qui vient de la ruralité, qui connaît ces sujets. Après, concernant la sécurité, voilà, on a aussi eu la chance d'avoir un ministre LR qui était Bruno Retailleau, enfin qui est toujours démissionnaire, mais on va encore lui accorder ce titre quelques temps. Mais en tout cas, jusqu'au prochain gouvernement, qui je pense ne sera pas tout de suite. Mais enfin, la sécurité, c'est la première priorité aujourd'hui, même en Bretagne, qui était la terre tranquille. Enfin, aujourd'hui, c'est plus le cas. Rennes, je pense que tout le monde le voit, c'est catastrophique. On est à Saint-Brieuc. Enfin, pour connaître Saint-Brieuc, je pense que c'est pas beaucoup mieux. Il y a une insécurité qui est très grande. Il y a un trafic de drogue qui est énorme à Saint-Brieuc, comme à Rennes. Donc, l'insécurité, il va falloir lutter contre. Et avec Thomas Rousseau, on propose des choses très claires. C'est doublement de la police municipale, l'armement de cette police municipale, une vidéosurveillance, qui est en tout cas plus forte que celle que la mairie met. Donc, on propose des choses, la droite propose des choses. Maintenant, il faut que ça soit écouté. Et surtout, je pense que les Français sont majoritairement d'accord. Avoir un policier qui est armé et un policier municipal qui peut faire un contrôle et demander à une voiture d'ouvrir un coffre, je ne suis pas sûr que ça soit très choquant.
Mmh. Justement, ces enjeux-là, la droite peut les porter sur le terrain, mais en face, il y a aussi LFI, parce que finalement, la gauche, c'est surtout LFI aujourd'hui qui peut peser dans la balance. Là aussi, les affrontements s'annoncent rudes, si j'ose dire.
Les affrontements s'annoncent rudes, bah, je pense que de leur côté, ils auront du mal avec le pluralisme, ça n'en fait aucun doute, mais la France insoumise, j'ai encore du mal à comprendre comment on peut voter pour eux, comment on peut accepter de dire qu'il faut désarmer toutes les polices municipales, que quoi qu'il arrive, la police tue, la justice doit toujours se placer du côté des méchants et de toujours d'être une justice qui excuse. C'est pas forcément ma conception, toujours plus imposer, taxer la réussite des autres pour financer son échec, c'est pas forcément ma façon de voir non plus. Donc, je ne sais pas comment. Je sais pas comment la France insoumise compte gagner des territoires. En tout cas, on voit que leur ancrage local, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'on peut encore reprendre ce très bel exemple à Villeneuve-Saint-Georges, où Christel Niasme, pardon, a gagné face à Louis Boyard, qui pourtant était en terrain conquis.
Alors, justement, les enjeux, c'est surtout aussi les villes ou les villes moyennes pour la droite qui a toujours eu du mal à s'y implanter ou s'y maintenir. C'est ça l'enjeu pour demain ?
Oui, c'est l'enjeu d'être capable de gagner des villes. C'est tout bête, mais ce sont des villes médiatiques. Mmh. C'est des villes qui font parler d'elles. Aujourd'hui, on a plein de villes à droite, mais lesquelles sont extrêmement médiatiques et lesquelles sont au premier plan ? Trop peu. Donc, il y a une nécessité de récupérer des métropoles. Déjà parce que je pense que les métropoles vont commencer à toutes s'effondrer une à une. Donc, il y a une nécessité de les récupérer, de les tirer vers le haut. Parce que quand on voit Paris, je ne suis pas sûr qu'on donne un très beau spectacle, que ça soit même de certains élus LR. Hein, il faut aussi dire avec l'actualité de ces derniers temps.
Voilà, on a la maire du 8e arrondissement qui a beaucoup fait part d'elle ces dernières heures.
Oui, ça pose aussi deux questions. C'est est-ce qu'il y a nécessité d'acheter autant de vêtements avec ces enveloppes ? Ça pose cette question-là. Moi, je ne suis pas sûr. Et deuxième question, pourquoi ne pas revoir aussi le budget de cette enveloppe ? Au moment où tout le monde doit se serrer la ceinture, justement, si on ne veut pas de hausse d'impôts, il faut accepter de dépenser moins. Et je ne suis pas sûr que l'argent des Français a vraiment utilité à aller dans les vêtements de Madame la maire, qui plus est, j'ai beaucoup d'amitié pour elle, mais elle est très bien habillée, c'est un fait, mais je pense qu'elle pourrait être habillée autrement, ça ne changerait pas sa fonction et sa manière de diriger la ville.
Il faut aller vers une plus grande sobriété des élus, y compris des élus locaux, on le voit aujourd'hui. Alors, je ne parle pas des maires des petites communes hein, qui vivent souvent chichement, qui n'ont pas forcément de grandes indemnités, mais pour les grandes villes, il faut avoir une plus grande sobriété aujourd'hui.
Je pense que oui. Alors, pour les maires des petites communes, je pense qu'ils vivent déjà dans une très très grande sobriété. Mais pour les maires des grandes villes, oui, il ne faut pas oublier que la fonction d'élu, à l'origine, n'est pas faite pour s'enrichir ou pour gagner de l'argent. Elle est faite pour servir localement, pour servir sa ville, son pays. Donc je ne suis pas sûr que toutes ces enveloppes qu'on rajoute soient toujours justifiées.
Un dernier mot sur la Bretagne. Aujourd'hui, on voit donc les difficultés au niveau national. Hier, nous avions Loïc Chesnais-Girard dans cette matinale qui plaidait pour une plus grande autonomie, en tout cas une plus grande autonomie, dans le sens de la décision, mais aussi financière des régions et en l'occurrence de la Bretagne. Ça peut être J'allais dire une porte de sortie, finalement.
Je ne confierais pas l'autonomie à Loïc Chesnais-Girard, en tout cas. Mais quand on voit les comptes de la région Bretagne, lui qui demande une autonomie financière, c'est un petit peu culotté, puisque nous avons le président de la commission des finances qui est issu des Républicains au sein de la région, c'est Stéphane de Saïd-Dupin. Si on lui demande, je pense qu'il donnera plutôt un avis défavorable, puisque je crois que les finances de la région ne sont pas bonnes. Loïc Chesnais-Girard est un socialiste qui n'a pas... Je ne sais même pas s'il est encore socialiste. Il est peut-être placé chez Place Publique, sûrement, pour avoir un vent de nouveauté. Mais je ne suis pas sûr qu'il apporte quelque chose de très bon à la Bretagne. Alors, il a sûrement fait de très bonnes choses. Je lui le souhaite. Mais je n'ai pas l'impression qu'il fasse vraiment rayonner la Bretagne comme il le faudrait.
Voilà, donc l'autonomie n'est pas forcément la meilleure solution.
C'est pas forcément la meilleure solution. Je pense que déjà, avoir des collectivités qui fonctionnent parfaitement et des régions qui fonctionnent, ça marcherait mieux. Déjà, avoir des conseillers régionaux qui seraient plus présents sur le terrain et surtout avoir moins d'emplois à la région. Parce que les régions coûtent très cher pour aujourd'hui des résultats qui sont extrêmement mitigés.
Un dernier mot, il y a eu ces coupes budgétaires. Alors, ça a été le cas dans certaines régions. Là aussi, sous le feu des médias, on a vu les Pays de la Loire qui ont décidé de baisser drastiquement les aides aux associations. En particulier, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est une des pistes qui peut être imaginée pour faire des économies. Est-ce que c'est une bonne idée, là encore, ou une fausse bonne idée ?
Non, je pense que ça peut être une bonne idée. Il faut trouver les économies partout. Aujourd'hui, même la plus petite économie, on doit la saisir et on doit la faire. Donc, pour les associations, alors bien sûr, toutes les associations ne peuvent pas être, victimes de ces coupes, puisqu'il y a des associations qui sont très utiles et qui doivent être financées. Maintenant, je pense que beaucoup d'associations pourraient se passer de financement. Et on voit que c'est des financements à tout niveau, même dans l'enseignement supérieur. On voit que la CVEC va à des associations qui font des shows de drag queen. Je pense qu'un étudiant qui est dans une situation de précarité, qui doit payer la CVEC parce qu'elle est obligatoire, c'est plus de 100 euros par an. Je ne suis pas sûr qu'il a envie que ça finisse dans des shows comme ça. Je pense qu'il préférait que ça finisse dans des bourses ou que ça finisse dans les collectivités du CROUS directement pour réduire les coûts. Mais je ne suis pas sûr que des shows drag queen à Rennes 2 soient vraiment... une très bonne chose à faire de l'argent public.
Un tout dernier mot, il nous reste une poignée de secondes. Marc Dédel, j'imagine que les jeunes républicains d'Ille-et-Vilaine que vous représentez je vais prendre une métaphore sportive, dans les starting blocks pour une campagne électorale si elle démarrait demain.
Oui, on sera prêt. Je crois que tout le parti se tient prêt. C'est l'avantage d'être un parti de gouvernement, parce qu'on est capable d'être prêt pour n'importe quelles échéances. Et on sera prêt demain s'il faut aller sur le terrain.
Marc Dédel, responsable départemental des jeunes républicains d'Ille-et-Vilaine, était avec nous ce matin dans la matinale de Bretagne 5 pour commenter l'actualité politique. Et elle bouge beaucoup en ce moment. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Belle journée.
Merci vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.